Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
Et là, je monte donc le dernier sommet, brouillard très très épais, et je me perds voilà, pendant 8 heures.
The Barkley Marathons is a 100-mile race comprised of 5 20-mile loops that you have 60 hours to complete.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Je vous emmène tout de suite dans ces rodives de l'été aux États-Unis, dans le parc de Frozen States Park, pour la fameuse Barclay, la course impitoyable inventée par Lazarus Lake, avec notre ami Guillaume Calmette qui nous parlera de cette Barclay qu'il a fait il y a quelques années. C'est parti.
Donc merci Guillaume d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors avant de démarrer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et te présenter en quelques mots?
Bien sûr, bah déjà tout d'abord, merci à toi Gaëtan pour l'invitation. Bah donc, me présenter à quelques mots, je m'appelle Guillaume, j'ai 36 ans, j'ai vécu 9 ans aux États-Unis et je suis juste revenu en France là en septembre. Donc aux États-Unis, j'étais chercheur en biologie. Là, je suis revenu, j'ai fait un petit changement de carrière et je travaille dans la data science.
À la base, tu étais sportif, tu as une expérience dans le domaine du sport avant de te lancer.
Oui, tout à fait. Donc, depuis tout petit, en fait, j'étais un peu hyperactif. Donc, du coup, mes parents, ils m'ont envoyé là où ils pouvaient pour calmer mes nerfs. Donc, j'ai fait un peu tout. J'ai fait de la lutte, du judo, du triathlon, du basket aussi beaucoup. Et le running, mon père courait un peu le dimanche, un vrai coureur du dimanche, comme on dit, courait vraiment le dimanche. Et donc, je courais des fois avec lui, comme ça. Mais à la base, j'étais pas forcément un coureur assidu. En fait, ça, c'est arrivé avec, une fois arrivé aux États-Unis, où je suis arrivé dans un nouveau pays, je connaissais personne. J'ai eu envie de faire quelque chose pour moi. Et vu que j'avais pas de voiture, je suis arrivé à Los Angeles et je voulais un peu aussi visiter les quartiers aux alentours. Et j'ai commencé comme ça à courir pour au départ découvrir en gros les alentours, découvrir la ville. Et vu qu'il y avait des montagnes aussi pas loin, j'ai commencé également à faire un peu de trail. Et j'ai décidé ensuite de m'inscrire à mon premier marathon. Donc c'était un petit défi personnel. Et ça s'est très mal passé. donc ça m'a plu parce que du coup j'avais un petit problème à résoudre. Et de bout en chemin, je me suis retrouvé à courir beaucoup, de plus en plus, et à faire des distances un peu plus allongées, etc. Et après, en rencontrant du monde, des amis, on s'arrête plus, on adore, on visite les montagnes et on se fait plaisir.
Alors, cette envie de faire la Barclay, alors chez toi, elle remonte à quand et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette course si particulière?
Donc, la Barclay, j'en ai entendu parler pour la première fois il y a à peu près 6-7 ans. Donc, c'était juste par un ami qui m'a forwardé un article du Washington Post où il parlait de cette course, la Barclay dans les bois, etc. Et en lisant, je n'avais pas bien compris le principe. Du coup, j'en avais entendu parler, mais je n'étais pas forcément plus intéressé que ça. À l'époque, je ne courais pas, je courais pas forcément des très grandes distances non plus. Hein, c'était du 10-15 km. Donc, j'ai commencé le trail, donc, comme je vous ai dit, avec des amis dans les montagnes. Je commençais à faire des 100 miles. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Voilà, maintenant, j'ai fait un 100 miles. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et j'ai regardé un peu autour les courses qu'il y avait. Alors, il y a des courses exceptionnelles aux États-Unis. Il y a Hard Rock, par exemple. Mais un des problèmes, c'est que c'est très, très dur d'y rentrer. À Western State, pareil, c'était assez dur d'y rentrer. Et puis, du coup, il y a cette Barclay qui est revenue dans le menu et auquel je me suis, euh, je, je me suis rappelé. Et donc, j'ai commencé à bien me renseigner dessus. Et c'est vrai que le concept, c'est extraordinaire. Hein. On est tout seul face à cette course. Et cette course, on ne sait pas trop ce que c'est. On entend tout le monde en parler de Barclay, mais c'est dur à décrire parce que très peu de personnes n'en parlent aussi. Donc, on a très, très peu de détails. Et donc, ça m'a beaucoup intrigué. Évidemment, comme il faut un petit CV pour arriver à la Barclay, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai eu la chance de gagner un 100 miles aux États-Unis, qui était Angeles Crest 100. Et après, j'ai commencé à faire beaucoup de courses hors trail, puisque la Barclay en elle-même n'est pas une course balisée. Et ouais. C'est important, du coup, dans le CV, d'avoir un peu de courses d'orientation, par exemple, ou des choses comme ça. Et j'ai appris qu'il y avait, deux Golden Tickets, ce qu'ils appellent. Donc, il y a deux courses, en fait, également organisées par le même organisateur, donc Lazarus Lake, qui, si vous voulez gagner, vous permettent d'avoir une entrée garantie à la Barclay. Et donc, ces deux courses sont d'une part la Barclay Fall Classic, qui est donc un 50 miles organisé dans le bois de Frozen Head, dont la plupart des trails sont les mêmes que ceux de la Barclay. Donc il y a cette course-là, il y a la fameuse aussi Big Backyard, qui est en fait une course dite Last Man Standing, dont le principe est tout simple et très beau aussi. Une boucle de 7 km à faire en une heure. Il n'y a pas de finish. Le finish, c'est quand plus personne ne veut repartir sur cette boucle et que vous êtes le seul à. Et donc j'ai eu la chance, c'était en 2017. 2017, de participer donc à la Big Backyard, et au bout de 36 heures, on n'était plus que deux coureurs, et ça a duré ensuite 23 heures de plus, et au bout de 59 heures, il restait plus que moi, et j'avais mon ticket à la Barclay.
Énorme. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette course quelle est la particularité de la Barclay et pourquoi c'est si mythique et si dur ?
Alors, d'une part, l'organisateur de cette course est assez charismatique, on va dire. Et il a une particularité, c'est qu'il aime bien donner des challenges aux coureurs, des petits défis. Et donc, son idée de défi, c'est de proposer une course qui évolue en fonction du temps, à partir du moment où des personnes terminent. C'est-à-dire que son but ultime est de proposer une course qui est à la limite de ce qui est capable, ce qu'un humain est capable de faire. Et donc à chaque fois qu'une personne termine cette course, il ajoute une petite portion ou il change une portion de plat pour une portion avec dénivelé pour essayer d'augmenter la difficulté petit à petit et de toujours rester à cette limite du faisable. Voilà, et le principe de cette course, c'est une boucle dite de 20 miles et avec beaucoup de dénivelé. C'est une course qui est non marquée, donc la plupart de la course est hors trail, même si certaines portions sont sur des trails qui existent. Voilà, donc il y a beaucoup de. Le problème, c'est que les montagnes du Tennessee, dans la forêt dans laquelle ça se passe, il y a beaucoup d'arbres couchés, il y a beaucoup de zones de cailloux, de falaises, donc il faut éviter tous ces obstacles, donc ça prend du temps. Et des fois, la végétation est très très dense, ce qui ralentit pas mal. Vu qu'il n'y a pas de marking, vu qu'il n'y a pas de marquage, il faut quand même prouver qu'on a suivi le chemin qui a été préconisé. La veille de la course, en fait, il propose une carte avec le tracé de la course. Donc, il n'y a qu'une seule carte et il faut donc recopier le trajet sur sa propre carte personnelle. Et une fois qu'on a ça, on attend le départ, qui n'est pas défini à l'avance non plus. C'est-à-dire qu'on sait que ça peut partir entre minuit et midi du jour d'après, mais on ne sait pas quand. On sera prévenu juste une heure avant, donc on dort très mal évidemment, parce qu'on ne sait pas quand ça va partir, on ne sait pas s'il faut bien dormir, si on aura le temps et que ce sera par exemple à 9h ou 10h du matin, ou si ça partira juste 2-3h du matin. Donc après ce départ, pour prouver qu'on suit bien le trajet, il y a des livres qui sont cachés dans cette forêt, dans ces montagnes. Et on doit arracher la page de chaque livre correspondant à son numéro de dossard. Puisqu'en plus, à chaque boucle, ensuite, vous donnez votre dossard et vos pages. Et quand vous êtes prêt à repartir, on vous donne un nouveau numéro de dossard.
There's paperback books which are kind of strategically placed so that to get them all, you have to follow the course. And you pull out the page number that matches your bib. You have to turn in your pages to show that you've done the course.
Voilà, pour porter pour une boucle. Et voilà, donc c'est un peu une chasse au trésor dans la montagne.
Donc une boucle, c'est à peu près 35-40 km, c'est à peu près ça.
Donc il y a la limite de temps est 12 heures. Donc ça paraît assez simple sur papier. Évidemment, donc c'est 12 heures par boucle. C'est-à-dire que si vous prenez de l'avance sur une boucle, ben c'est très bien, vous pouvez partir plus tôt. Donc 40 heures pour finir 3 boucles, et à partir de là, bon, ce sera quand même un échec, mais vous aurez ce qui s'appelle le fun run, voilà, donc qui est 3 boucles. Ben après, si vous passez par prendre les 36 heures, vous avez ensuite 48 et 60 heures pour les fameuses 5 boucles de la Barclay.
D'accord, donc on pousse le corps au-delà des limites, presque à la bordure des limites humaines.
Ben après, il faut savoir qu'en 30 ans, cette course a existé depuis 30 ans, il y a 15 personnes uniques qui ont fini cette course. Voilà, donc ben au niveau des Français, il n'y en a pas encore.
Donc, te voilà sélectionné parmi les 40 participants à ce trail qui est la Barclay 2019. Quand tu sais que tu es pris, la préparation, là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et comment tu te prépares à une course comme ça?
Déjà, j'étais super content et ça devenait réalité. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'entraînement pendant plusieurs mois jusqu'au jour de la course. Alors j'ai fait beaucoup de dénivelé, évidemment. Du coup, là où j'habitais à Los Angeles, j'avais la chance d'habiter à quelques kilomètres donc des montagnes. Et il y avait notamment une montagne assez raide. Donc ça faisait 300 mètres de dénivelé sur moins d'un kilomètre, peut-être 800 mètres. Mmh. Donc on était 35%, et je faisais du coup des allers-retours, des fois pendant toute la nuit, des sessions de 12 heures, des choses comme ça. Donc même si j'avais l'entrée garantie, il faut savoir que donc pour la Barclay, pour s'inscrire, il y a une fenêtre de temps très très spécifique à laquelle vous devez envoyer une lettre à l'organisateur.
Parce que l'organisateur n'a pas de site internet et il faut le contacter par ses propres moyens.
Exactement, c'est un peu une chasse au trésor avant la chasse au trésor. Hein. C'est ça aussi qui est super intéressant, c'est de trouver les petits indices de ce qu'il faut faire, à quel moment faut-il envoyer, ce qu'il faut mettre dedans, etc.
Est-ce que tu peux nous parler après de ton arrivée sur place, globalement, où est-ce que ça se situe pour les gens qui ne savent pas où se trouve ce trail, et quelle est l'ambiance et l'environnement dans ce fameux parc là que tu vas peut-être nous décrire, et toi quand tu arrives, est-ce que tu es seul, t'es accompagné, t'as une team, comment ça se passe?
Oui, donc le parc s'appelle Frozen Head, c'est dans le Tennessee, et il y a un tout petit camping, voilà, donc qui peut avoir 50 personnes en gros dedans. Donc c'est très familial. Et c'est à côté d'une... C'est vraiment perdu. Hein. Il n'y a pas de grosse ville à côté. C'est à 1h30 de Nashville. Mais sinon, la ville à côté du parc s'appelle Wartburg. Et il n'y a vraiment rien. Il y a 3 supérettes, une pizzeria et puis un motel. Et donc l'ambiance, c'est super parce qu'on est coupé du monde. Un petit peu, donc on arrive ensuite dans le parc, on s'approche du camping, et là déjà on perd le réseau téléphonique, donc c'est un bon moyen pour se retrouver isolé, on va dire. Et donc c'est cette forêt dense, un peu mystique, beaucoup de brouillard, voilà, bon, au final on s'y sent bien, quoi.
Je crois qu'il faut même venir avec une plaque minéralogique, c'est ça?
Oui, alors la première année, effectivement, il faut venir avec une plaque de son pays. Voilà, donc du coup moi j'avais amené une plaque, une vieille plaque toute jaune à écrire en noir 64, c'était les anciennes plaques d'immatriculation, et du coup en fait c'est ça aussi qui est sympa, c'est que dans le camp toutes ces plaques d'immatriculation qui ont été amenées par les différents coureurs des différents pays au cours des années, elles sont étendues, voilà, et donc ils tirent des fils entre plusieurs arbres et ils les accrochent, et donc il y a ce mur de plaques qui nous rappelle aussi qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont essayé et très peu de gens qui sont arrivés.
C'est clair.
Et ça donne aussi une ambiance un peu mystique, parce que s'il y a un peu de vent, voilà, les plaques elles se tapent un peu, il y a ce petit bruit, c'est assez sympa.
Alors, il y a quand même dans le décor un truc un peu sinistre, c'est que je crois qu'il y a une vieille prison américaine. Et alors, cette prison, elle fait un peu partie du mythe, non?
When we started having the race, the prison was still open. The reason that they put it there, they stuck it up in a valley between these high mountains. And so if the prisoners went over the wall, they had not escaped. They called it the third wall.
Mais sinon, donc, elle est fermée, on ne peut pas y accéder. Donc, la seule façon d'y accéder, c'est de faire la course. Et c'est vrai que, bah, du coup, en fait, dans la course, donc, pour résumer l'histoire de la Barclay, à la base, donc, il y avait un meurtrier très, très connu qui était enfermé dans cette prison et qui, un jour, s'est évadé. Donc, cette prison, elle est enfermée par les montagnes qui font le parc de la Barclay. Et donc, la chasse à l'homme a duré 60 heures. Et ils l'ont retrouvé après 60 heures à juste 8 miles, donc 12-13 kilomètres de la prison. Et donc la Barclay est née comme ça en fait. L'organisateur, donc Lazarus Lake, s'est un peu moqué, a dit « Moi, en 60 heures, j'aurais pu faire 100 miles. » Donc voilà, donc c'est comme ça qu'est née la Barclay.
The course is located in Frozen Head State Park, home to the Brushy Mountain State Penitentiary. In 1977, James Earl Ray, the man who killed Martin Luther King Jr., made headlines again when he escaped the prison. In the 54 hours he was free, he only made it 8 miles from his cell.
Et donc oui, donc cette prison, on y passe durant la Barclay, on a la chance de passer en dessous, il y a un tunnel avec de l'eau, beaucoup d'eau qui coule, et un des livres se trouve à l'endroit sur le mur où s'est échappé voilà, ce meurtrier.
Avant le départ, il y a ce fameux Lazarus Lake hein, qui est particulier.
You have just your map and compass. It's cold, it's wet, it's miserable. You're alone.
Donc tu nous as parlé un peu du départ où c'est lui qui choisit un peu l'horaire en fonction de son humeur. Quand le départ va être donné, il va allumer une cigarette, je crois, c'est ça la légende.
Are y'all about ready?
You start the race with a cigarette light. Which feels very untraditional for most race starts.
Yeah, we always use a Camel because that's about the best cigarette, I think. Why do we light the cigarette? Because you might as well have fun.
Quand tu le vois mettre la cigarette à la bouche, là, dans quel état d'esprit tu es pour cette Barclay?
Alors, juste avant la cigarette, donc y a une étape aussi assez mythique qui est donc le quand il souffle dans son coquillage. Donc en fait, la cigarette, une heure avant, on a été prévenu qu'il allait allumer sa cigarette une heure après. Pour prévenir tout le camp que dans une heure, le départ va être donné, il souffle dans un vieux coquillage. Donc, si on est en pleine nuit, c'est censé nous réveiller. Mais bon, vu que personne ne dort très profondément, de toute façon, on est facilement réveillé par ça. Et donc, après, on a donc une heure pour se préparer et pour se présenter à la fameuse porte jaune, la Yellow Gate, où Laz nous attend avec sa cigarette et son briquet. Et donc, c'est très, très solennel au niveau du départ. Hein. Il n'y a pas un bruit. Tout le monde, on se regarde, on ne sait pas trop ce qui nous attend, surtout la première fois. Après, les vétérans, ceux qui l'ont déjà fait, ils savent un peu ce qui va les attendre. Mais c'est vrai que la première fois, c'est... voilà, on se retrouve face à cette porte jaune. Le trail est devant nous. Bon, on espère tous qu'on aura une bonne aventure, mais on sait très bien que nos chances sont maigres. Donc, c'est... oui, les sentiments, le feeling, c'est un peu... C'est ambigu, on est excité, en même temps, on a un peu peur... Voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on est dans l'expectative, donc on attend juste qu'il allume sa cigarette et allez à Jacques Taest.
Donc, une fois qu'il a allumé sa cigarette, c'est parti. Est-ce que tu peux nous parler de ta première boucle et comment ça s'est passé au début de la course, on va dire?
Alors, la première fois qu'on a la Barclay, évidemment, comme la plupart de la Barclay se fait hors des sentiers marqués et que ces sentiers ne sont pas accessibles en temps normal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller repérer les parties qui sont hors du trail. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de rester dans un groupe où il y a des personnes qui ont déjà fait cette Barclay. Parce que eux, ils vont être capables un peu de vous donner des conseils. Par exemple, disant voilà, quand tu vois ces deux pierres là, tu sais qu'il faut tourner à droite. Là, tu verras ensuite 500 mètres plus loin, il y a un arbre en forme d'autruche. Enfin, chacun a ses petits repères qu'il faut essayer de mémoriser. Et donc, on essaye de rester dans un groupe. Parce qu'on sait que si on est tout seul, ben ça va être très très difficile de s'en sortir, parce que rien que savoir, on a effectivement une carte avec les emplacements des livres, mais une fois sur place, par exemple, donc en plus de la carte, il faut savoir qu'on a une ce qu'ils appellent un roadbook, donc une description assez précise du trail qu'on doit prendre. Et il y a notamment, par exemple, ben voilà, vous arriverez en haut de cette montagne et le livre sera sous une pierre. Bon, ben, ça a l'air simple. Et donc, on arrive en haut de la montagne et puis là, on voit 150 pierres. Et c'est okay, là, laquelle on choisit. Donc, du coup, en plus, en étant un groupe, ben, chacun part, on essaye. Donc, du coup, ben, chacun essaye de mémoriser voilà, la pierre où le livre est en dessous. Et donc, du coup, ça aide d'être avec des vétérans. Donc, voilà, donc, la première boucle, ben, on est très solidaires. Il faut savoir qu'en fait, il y a très peu de compétition entre coureurs à la Barclay. Voilà, on sait très bien que y a très peu d'élus qui vont finir. Donc c'est comme c'est toute l'équipe contre la course et on essaye d'être solidaire jusqu'au bout en espérant qu'un d'entre nous vaincra la course cette année.
Plus la course avance, donc il y a la première boucle. Après, il faut retourner au camp de base, hein, c'est ça. Et là, au camp de base, il y a le ravitaillement, c'est la course qui gère ou c'est des particuliers, c'est des voilà. Amis.
Donc, en fait, quand on va à la Barclay, on a le droit d'amener une personne. Chaque personne, a une crew, hein, ce qu'on appelle, voilà, une petite assistance. Et d'ailleurs, c'est très ingrat d'aller aider un coureur de la Barclay parce qu'on attend pendant très longtemps. Et on ne sait pas où ils sont, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de suivi. Donc, on ne peut que réfléchir, on ne sait pas trop où est le coureur, où est-ce qu'on est. Et à partir du moment où vous voyez votre coureur arriver, vous avez souvent que 30 minutes, moins de 30 minutes pour vous en occuper avant qu'il reparte. Des fois moins. Donc voilà, vous attendez des heures pour juste pour quelques minutes. Voilà.
Et alors l'environnement, donc c'est de la brousse quoi. Il n'y a pas de sentier, donc on est griffé de partout. Le sol c'est de la boue.
Tout dépend. Il y a un peu de tout. Des fois le sol c'est des champs de gravier. Enfin il y a des fois il faut aller grimper sur des rochers. Des fois oui c'est des champs de boue. Des fois c'est des champs de ronces aussi. Donc les fameux sobraillards de la Barclay. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucun coureur qui revient les jambes intactes au camp de base.
La course avance et là, toi, tu es dans un combat physique et mental qui commence à se développer. Donc là, tu es dans ton deuxième tour. Est-ce que c'est aussi dur que tu l'avais imaginé?
C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. Puis en plus, du coup, la première année, c'était un calvaire avec le temps. Et y a d'une part la difficulté physique. Mais dans la course, on va se retrouver tout seul à un moment ou à l'autre. Donc moi, pour la première année, c'était... début de la troisième boucle, où là j'étais vraiment tout seul. Gary Robin était devant. Et voilà, et moi, mon compagnon de course venait de se flinguer le genou. Donc je me suis retrouvé tout seul. Et là, tout seul à naviguer, un peu de brouillard, un peu de la nuit qui tombe. C'était très dur, même mentalement.
On arrive à cette fameuse troisième boucle. Alors, je crois que pour toi, en 2019, il y a eu... Tu as flirté avec les 36 heures et il te manquait, je crois, alors il te manquait 3 minutes, c'est ça, pour passer à la quatrième boucle. C'est alors ça. Là, comme, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe là?
Ben alors, en plus, j'avais une histoire avec cette troisième boucle. Parce que donc en 2018, j'arrive au dernier livre après 37 heures. Donc là, il me reste 2,5 km pour entrer au camp. Voilà, et je sais que bon, ben, j'ai 3 heures pour faire 2,5 km pour faire un fun run. Donc je me dis, bon, c'est dans la poche. Donc j'ai tous mes livres en poche. Et là, je monte donc le dernier sommet, brouillard très très épais, et je me perds voilà, pendant 8 heures. Donc je finis en fait en 45 heures, en gros, donc hors délai. Et donc oui, donc la troisième boucle, bah ouais, c'est un peu ma pierre noire, on va dire. Et donc là, cette année, j'arrive en haut au dernier livre. Et il me reste peut-être 35 minutes et je me dis, ah, c'est jouable. Et je cours, je descends et je veux pas regarder ma montre. Je veux pas regarder. Et en plus, j'espère que ma montre n'est pas forcément à l'heure et qu'il me reste plus que ce qu'il me reste vraiment. Et donc, j'arrive à cette barrière et là on me dit, ben voilà, Laz me dit, ben, ah, c'est bien joué, mais.
Okay, il manque 3
minutes. Voilà, il était 3 minutes. Bah, du coup, je valide la troisième boucle. Donc, c'est un progrès par rapport à l'année d'avant, mais ça reste quand même un échec. C'est seulement 3 boucles.
Alors, est-ce que à l'issue de cette course, finalement, et tes 3 boucles, donc cette fameuse fun run réalisée, est-ce que toi, tu as envie de la refaire une troisième fois pour aller plus loin ou est-ce que tu en es rassasié?
Ah non, bien sûr que j'ai envie de la refaire. Bah, cette année, j'étais encore inscrit. Bon, la course, hélas, ouais, a été annulée à cause du coronavirus. C'est un projet personnel, on va dire un long projet. Enfin, c'est pas juste, c'est un travail de plusieurs années, quoi, on va dire. Mmh. Et c'est ce qui est bien aussi, c'est que du coup, Lazarus Lake, c'est pareil. Il sait que voilà, les gens vont pas forcément réussir du premier coup. Donc, il donne à partir du moment où il investit dans quelqu'un, il va leur donner plusieurs années pour essayer de s'améliorer et de finir la course. Donc, à partir du moment où on montre une progression, bah, il va encore redonner. Redonner la chance, quoi.
Avec la distance, qu'est-ce que tu gardes de ces deux expériences sur la Barclay? Est-ce que tu as un souvenir marquant?
Le souvenir marquant, c'est la cohésion entre les coureurs. Donc, il faut savoir que même si les coureurs, bon, il y a beaucoup de coureurs qui abandonnent après une boucle, par exemple, mais après, ils se mettent au service de tous les coureurs qui sont encore en course. Donc, en fait, quand on arrive au camp, par exemple, à la fin de la seconde boucle, ben, on a tous ces gens qui sont prêts à donner leur vie presque pour se remettre sur le trail. Donc, c'est devenu des vrais amis. Entre guillemets, on fait il y a des relations qui sont super fortes parce qu'on a partagé des moments qui sont durs à décrire. C'est-à-dire que quand on a vécu ces moments-là ensemble, on s'est perdu pendant des heures dans une forêt au milieu du brouillard. Bon, ça a pas l'air fun comme ça, mais au final, c'était un moment unique. Je retiendrai ça. Voilà, c'est le partage, c'est vraiment la cohésion, c'est vraiment les coureurs, le groupe contre la course. Et c'est pas une course individuelle. Hein, c'est même si au final c'est individuel, c'est chacun essaye de s'aider pour que un de nous finisse.
Excellent.
When an F1 or more of them comes in, it's an inspiring thing. Hard to believe a human can accomplish that.
Voilà, cet épisode des Rediff de l'été consacré à la Barclay est maintenant terminé. Nous terminons en musique avec une chanson de Étienne Dao, La peau dure. Bonnes vacances à toutes et à tous et profitez bien de vos sorties trail cet été.
Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure. Tes souvenirs ont la peau dure, fêlure. À chacun son chemin, chacun ses déchirures. mais je les ressens comme toi. Fracture, poussée seule sur un tas d'ordures, torture, redoutée d'être une imposture, froidure qui nous gerce le cœur et rouille les jointures. Oui, je les ressens quand les larmes de l'enfance, toute la vie son murmure, où sont l'épaule et les mots qui te rassurent. Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Griffure, je lèche ta triste figure. Morsure, ton sang et ses éclaboussures. Roulure, les salauds qui peu à peu nous ont à l'usure. Oui, je les ressens. Quand les larmes de l'enfance, toute la vie son murmure, où sont l'épaule et les mots qui te rassurent. Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure, et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure, tes souvenirs ont la peau dure. Fêlure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi. Oui, je les ressens. Comme toi. Oui, je les ressens comme toi.